Bienvenue sur Clapotis. Dans cet épisode, nous allons évoquer le contexte historique et culturel de l'auteur que vous avez au programme. Alors pourquoi c'est si important de comprendre ou d'appréhender le contexte d'un auteur ? Et on ne peut pas comprendre celui-ci, on ne peut pas comprendre son œuvre sans avoir un regard précis sur son environnement. Attention, il ne s'agira pas de faire du copier-coller entre la vie de l'auteur, son contexte historique ou culturel. Il s'agira surtout d'entrevoir comment, à des instants, l'angle historique ou l'angle culturel va pouvoir éclairer l'œuvre que vous avez à étudier. Et cela n'enlèvera absolument pas la nécessité, à l'oral comme à l'écrit bien sûr, de délivrer face à votre examinateur ou face à celui qui va corriger votre copie, de délivrer des analyses à la fois littéraires et stylistiques qui seront bien sûr précises. Aujourd'hui, découvrons le contexte historique et culturel à travers lequel a évolué notre illustré écrivain Victor Hugo. Afin de le situer dans son siècle et de comprendre en quoi les événements historiques et culturels ont pu l'influencer, redonnons déjà ses dates de naissance et de mort. 1802-1885. Ainsi, vous voyez déjà que Victor Hugo a parcouru une bonne partie de ce siècle, agité, tourmenté en événements. Retenez bien pour autant qu'il ne s'agit pas dans cet épisode de faire la biographie détaillée de notre auteur, tout simplement parce qu'on ne vous demandera pas aussi bien l'oral qu'à l'écrit. Ici, il va s'agir avant tout de voir comment l'arrière-plan culturel, mais aussi historique, a pu avoir une résonance dans la création de son recueil poétique, Les Contemplations. Sachez que deux points majeurs vont éclairer cette production poétique. Tout d'abord, l'exil de Victor Hugo en raison de son hostilité à Napoléon III et, on va voir aussi, l'influence de l'empreinte romantique indéniable dans ses écrits. Nous sommes en 1856 lorsque Victor Hugo publie ce recueil qui est Les Contemplations. Cela fait déjà 4 ans qu'Hugo est exilé à Jersey et plus précisément depuis le 1er août 1852. Monarchiste et conservateur dans sa jeunesse, Hugo s'était rapproché progressivement des idées de la gauche républicaine. Il avait été élu député à la suite de la Révolution de 1848 et il avait soutenu le nouveau régime et son prince-président, le fameux Louis-Napoléon Bonaparte. Mais le coup d'État du 2 décembre 1851 va faire de Victor Hugo un farouche adversaire du Second Empire et donc de Louis-Napoléon Bonaparte, devenu le fameux Napoléon III. Dans son exil, il poursuivra son combat politique en 1853 en publiant Les Châtiments, véritable réquisitoire poétique sans appel contre l'empereur qu'il surnomme sans retenue le fameux Napoléon le Petit. Dans la suite des Châtiments, Victor Hugo souhaite poursuivre son combat à travers un nouveau recueil qu'il imagine. Il pense alors à écrire un recueil qui aurait le nom « Les Contemplations d'Olympio ». Olympio étant le double du poète qui déjà était apparu dans ce recueil « Les rayons et les ombres » qu'il avait écrit en 1840. Alors dans la tête de Victor Hugo, l'ouvrage devait alors comporter 2 parties. La première qui aurait été avant tout lyrique et la seconde qui aurait été très politique, attaquant violemment Napoléon III et son régime. Mais finalement, Hugo va changer de cap et d'orientation. En 1853, il publie Les Châtiments, recueil effectivement doté d'une vive critique contre l'empereur et qui correspond à la seconde partie envisagée. Et puis, finalement, le 23 octobre 1856 précisément, Les Contemplations voient le jour. Ainsi, chacune des 2 parties envisagées, comme on l'a évoqué tout à l'heure, sont publiées de façon autonome. Moins ouvertement politique et moins satirique, le nouveau recueil, sous le nom de Contemplation, n'en demeurera pas moins une œuvre de l'exil d'un poète engagé. On vient donc de voir combien ce recueil a été conditionné ou est l'aboutissement de toute une réflexion d'un poète engagé et qui combat politiquement un adversaire qui est Napoléon III. Mais deuxième point qu'on aborde à présent, on va voir comment les contemplations aussi sont marquées par la plume du plus grand représentant des romantiques. Même si nous sommes en 1856 et que le romantisme s'essouffle, hein, il a surtout marqué la première moitié du 19e siècle, le recueil n'en demeure pas moins marqué, n'en demeure pas moins traversé par le souffle romantique. En effet, qu'est-ce que vous y trouvez dans ce recueil ? Eh bien, vous y trouvez un Victor Hugo qui exprime ses souffrances, ses tourments, tout en évoquant sa soif d'absolu et de liberté. Et ça, c'est typiquement romantique. Cette oscillation entre les sentiments, caractéristique de la poésie romantique, et cette expression « ce temps du moi » qui est omniprésent dans le recueil, bref, tous ces aspects sont typiquement romantiques. Ce recueil est effectivement empreint de romantisme, car ce moi n'est pas narcissique, ce n'est pas une pure contemplation de soi-même. Victor Hugo, effectivement, y expose des batailles, des luttes difficiles, mais victorieuses. Ça, c'est le souffle romantique. Donc, il est bien présent, et la poésie prend alors les tonalités variées qui traduisent bien les mémoires d'une âme, car je vous le rappelle, c'était le titre auquel avait pensé un temps Victor Hugo pour traduire ce retour sur ses 25 années de sa vie. Pourquoi c'est aussi romantique ? On vient de l'évoquer à l'instant, hein, avec ces élans de ce moi intérieur. C'est romantique aussi parce que ce recueil invite le lecteur à méditer sur l'existence. Hugo dira cette très belle phrase « Ma vie est la vôtre, votre vie est la mienne, vous vivez ce que je vis ». Effectivement, ce recueil est romantique aussi parce qu'il nous invite à réfléchir sur nous-mêmes, sur notre condition, quel sens donner à la vie, quel sens donner à sa vie. Bref, toutes ces questions nous invitent à nous forger aussi nos propres convictions. Et c'est en cela que là, on a tout le lyrisme romantique de Victor Hugo. C'est une poésie qui est effectivement avant tout poignante, et c'est ce qu'on en retient avant tout, mais puisqu'elle prend sa source hein, dans les drames personnels, mais c'est une poésie romantique parce qu'elle est poignante, mais aussi parce qu'elle ne cesse de traduire les combats d'un homme visionnaire qui interroge l'univers. Et ça, c'est ce qui permettra de montrer comment les contemplations constituent un recueil typiquement romantique. Vous voyez donc comment le contexte historique et culturel a fortement marqué l'écriture de ce recueil que sont les Contemplations. L'hostilité de Victor Hugo à l'encontre de Napoléon III a certainement guidé petit à petit sa création, et l'influence du romantisme, bien sûr, et Hugo en étant le chef de file, l'influence romantique est manifeste dans ce recueil de maturité dans les années 1850. Bien sûr, vous n'hésitez pas à consulter sur la plateforme Podcastix l'infographie qui va avec cet épisode afin de retrouver les dates clés et importantes du parcours et de la vie de Victor Hugo. Et d'ici là, je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode consacré au contexte historique et littéraire de nos auteurs au programme. Je vous dis donc à très vite sur Clapotis.